un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avant, on appelait ça des bavures, incidents regrettables, événements accidentels. Désormais, mieux documentés et comptabilisés, on ose parler de violences policières. Il faut lire le livre de l'avocat Aria Halimi, « L'État hors la loi, logique des violences policières », un document d'une rigueur exceptionnelle pour comprendre leur mécanique et la fabrique du mensonge qui les entoure souvent. L'avocat consacre notamment un chapitre à celles qu'il appelle les violences commises sur des personnes circulant dans l'espace public, sur les routes ou dans les quartiers. Contrôle routier qui dégénère, course-poursuite, on pense évidemment à Naël, mais les chiffres donnent le vertige. En 2021, l'IGPN recense 4 morts provoquées par des tirs de police sur des véhicules en mouvement. En 2022, on en dénombre 13. En remontant plus loin, on s'aperçoit que les tirs sur des véhicules en mouvement sont passés de 137 en 2016 à plus de 200 en 2017. En cause notamment, explique très bien l'avocat dans son livre, le fameux article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, en vigueur justement depuis 2017, et qui semble accorder aux policiers un droit de vie et de mort, ou du moins l'interprète-t-il ainsi. En écoutant tout de suite des récits de victimes, répondant d'une certaine façon à plusieurs épisodes que nous avons consacrés aux policiers blessés ou épuisés, on pourra aussi penser à ces pays où les forces de l'ordre ne sont tout simplement pas armées. Refus d'obtempérer par Rémi Dibowski-Douette.
Je m'appelle Amalia, j'ai 38 ans, j'habite à Sevran. C'est une histoire qui a commencé le 26 mars 2022. Il était aux alentours de 12 heures. On a reçu un coup de fil, j'étais accompagnée de ma belle-mère. On venait de sortir de Carrefour pour faire des courses. Et il y a une amie à ma belle-mère qui l'a appelée en panique en demandant le groupe sanguin de Jean-Paul, mon mari. Donc on ne comprenait pas trop parce qu'elle parlait vraiment dans la panique et tout. Mais le groupe sanguin, je ne savais pas, je ne l'avais pas en tête. Donc on est sorti de Carrefour, on est venu en précipitation. Mais au moment où on arrive dans la cité, on voit le SAMU partir. Donc c'est à cet instant que je regarde ma belle-mère et que je lui dis, dès qu'il y a le SAMU, c'est grave. Et on m'avait dit qu'il s'était écrasé, en fait, dans son camion. Il a eu un accident. Donc on suit le SAMU, qui se dirige vers l'hôpital Robert Ballanger. Et on voit que le SAMU ne rentre pas complètement dans l'hôpital, mais il reste garé sur le côté. Donc on descend de la voiture, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Il nous dit qu'il ne peut pas nous répondre. Et on lui dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas nous répondre? Parce qu'on est quelqu'un de la famille et tout. Je lui dis, moi, je suis sa compagne et voici sa mère. Il me dit, non, je ne peux rien vous dire. Et il y a un ami qui avait accouru de la cité jusqu'à Robert Ballanger, qui a eu le réflexe d'ouvrir la porte du SAMU. Et c'est là qu'on l'a vu les bras pendants, juste avec un caleçon, il n'avait pas de vêtements. Il était en train de se faire réanimer. C'est là que bon, les gens ils ont réussi à refermer la porte et qu'on nous a dit qu'on attend l'hélicoptère parce qu'il doit être héliporté, que son état était trop grave pour que Robert Lavalanger puisse le prendre en charge. On est resté plus de 40 minutes à attendre que quelqu'un du SAMU sorte pour nous donner des nouvelles, en nous disant qu'il avait fait un arrêt cardiaque et qu'ils étaient en train de le réanimer. Qu'il était inconscient, mais qu'ils ont réussi à le stabiliser. Son état est stable, mais son pronostic vital est engagé. Que là, ils allaient l'emmener à la Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est un hôpital assez réputé, donc je me suis dit, bon, ça va aller. Donc, quand on est sorti de l'hôpital, on est passé par la cité. Donc, je vois toute la cité encerclée de policiers, de tout et tout. Donc, je m'approche, je vais vers eux. Et bon, pour moi, il a eu un accident, un simple accident. Et c'est là que j'apprends qu'on a tiré sur Jean-Paul et qu'il était blessé à la jambe. Voilà, qu'il a eu une altercation, parce que quand j'ai entendu qu'il a été tiré à la jambe, donc pour moi, il a eu une altercation avec quelqu'un, peut-être de la cité ou autre. Voilà. Après, Je monte déposer mes courses. Il y a ma belle-sœur et une amie à moi qui m'attendent en bas. Je redescends en bas. Et là, je vois le regard de ma belle-sœur. Et là, elle se met à pleurer dans mes bras. Elle me dit, oui, mon frère est parti. Et je me suis avancée. Je sais que j'ai fait un, deux ou trois pas vers la voiture. Et je suis tombée. Et le temps de se remettre. Donc, je me suis dit, en fait, non, pour que je puisse vraiment croire que c'est fini, il faut que je voie son corps. Et après, il y a quelqu'un qui nous a appelés de l'hôpital en lui disant qu'il fallait venir voir le corps avant qu'on le ramène à l'institut médico-légal. Et on a été. Et quand on est arrivé là-bas, à la salpêtrière, et donc, il y avait déjà mon autre belle-sœur. Mais jusqu'à cet instant, je n'y crois pas, en fait. Et c'est quand on arrive à l'hôpital et on nous ramène vers la chambre et que je vois qu'on descend tout en bas du sous-sol, plus je m'approche, plus j'angoisse. Et quand on est arrivé devant la porte où est-ce que se trouvait son corps, ils ont ouvert, j'avais même pas vu son visage, j'ai juste vu son corps allongé. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il était plus là. La seule phrase que j'ai eue, c'est « Tu es partie, tu m'as laissée toute seule. » J'ai répété ça je ne sais plus combien de fois, en lui tenant la main, en lui disant « Tu m'as laissée. » Et dans ma tête, je me disais « Mais comment je vais faire maintenant ?» Enfin, je me retrouvais seule avec les enfants. Et je me dis « Mais comment je vais faire pour annoncer ça ou leur faire comprendre ?» Parce qu'ils sont petits. À cette époque, mon fils était âgé de 5 ans et ma fille de 3 ans. C'est le psychologue, en fait, qui a expliqué aux enfants que leur père était parti, en fait. Mon fils, je pense qu'il a tout compris. Mais ma fille, non. Le psychologue aussi me disait bien qu'il fallait aussi accompagner les enfants, qu'ils assistent à tout. Parce que j'avais peur aussi de les ramener aux funérailles. Et le psychologue m'a dit non, il faut qu'ils voient du début jusqu'à la fin, qu'ils comprennent bien tout ce qui se passe. Et c'est la réaction de ma petite que j'avais surtout peur. J'avais peur qu'elle saute sur le cercueil en voyant son papa, ou qu'elle demande pourquoi papa bouge pas, pourquoi papa parle pas. Donc j'ai parlé à mes enfants, j'ai dit qu'on va aller voir papa et tout une dernière fois, mais papa il dort. Et j'ai dit à ma petite fille, j'ai dit il faut pas faire du bruit pour pas réveiller papa. Elle m'a dit d'accord. Donc du coup, elle a été, elle le regardait et elle a fait tout le tour du cercueil et elle a enlevé les mains de tout le monde qui tenait. Et elle disait, papa il dort et tout, faut pas le réveiller. Donc, mais mon fils, il le fixait sans jamais baisser la tête, il le fixait. Ça me faisait mal au cœur parce que je voyais que la petite, elle est innocente, donc elle comprend pas vraiment. Je pense que mon fils, il a compris parce qu'il n'a pas décroché un mot de tous les funérailles. Donc oui, pendant un bon moment, il était très triste. C'est longtemps après que on commence à avoir des infos, on commence à avoir des vidéos, on commence à parler. J'entends un vol de camion plein de colis. C'est là que je comprends l'histoire qu'on dit qu'il y a une course-poursuite. Quand je regarde la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a eu un contrôle de policier qui a mal tourné. Il s'est fait tirer dessus parce qu'il a voulu, d'après les premiers dires, il a voulu renverser le policier. Donc il lui a tiré dessus, il a ouvert le feu et lui, il a continué à rouler. Il s'est encastré dans deux véhicules qui étaient devant parce qu'il a perdu connaissance au volant. Donc de ce que je sais de l'enquête, la balle, elle a été après autopsie retrouvée dans le foie de Jean-Paul. Donc j'entends tir accidentel, j'entends que la vie du policier était menacée, donc il a eu peur, le réflexe est de tirer. il y a eu beaucoup de choses fausses. Au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte qu'il n'y avait pas de danger pour le policier. C'est l'enquête formellement qui le dit. Mais moi, je comprends. La seule chose que j'ai compris, en gros, c'est qu'il y a une altercation avec son employeur. Il décide de garder le camion. On a entendu régler le malentendu qu'il y avait avec eux. Mais l'employeur déclare ce camion volé tout en sachant qu'il n'est pas volé. Et il s'est fait tirer dessus. C'est là que je vois l'impact sur le camion, l'impact de la balle. Je vois la vidéo où on voit les policiers lui retirer le camion, le mettre par terre et le retourner brusquement pour le menotter. Et c'est à cet instant-là qu'ils se rendent compte qu'il est inconscient et qu'il a été touché par une balle. Et je pense que si Jean-Paul n'a pas survécu, c'est déjà parce qu'il y a eu une mauvaise prise en charge dès le début. Trop de temps s'est écoulé du moment où il a été touché. Donc non seulement il a continué à rouler, il a perdu connaissance. Le temps que les policiers même l'enlèvent du camion, ils se rendent compte qu'il est inconscient, le temps d'appeler les secours. Les secours voyant l'état grave, le temps d'appeler les SAMU. Il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Donc je pense qu'il a eu une mauvaise prise en charge. Jean-Paul, c'était quelqu'un qui rigolait tout le temps. Tout le temps, il avait toujours le sourire, c'était un clown en fait. Toujours la pêche. Moi j'étais gâtée. Hein. C'était pire que le Papa Noël. J'étais hyper gâtée, les enfants... Pareil, des fois même, je l'engueulais parce que c'était trop. Et c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Il pouvait commencer un travail de 8h jusqu'à 22h, 23h. C'était vraiment, vraiment un bosseur. À une époque, il avait fait du Uber. Et je me souviens que son patron était très fier de lui, en fait. C'était un de ses meilleurs chauffeurs. Parce qu'il travaillait vraiment... Attention, il n'avait pas peur de travailler. Quand il a commencé, en fait, il a fait beaucoup de trucs dans la livraison. Et il me disait, je veux être patron. J'en ai marre de travailler pour les gens. Je veux être à mon compte. Je lui ai dit, d'accord, si tu es sûr de ça, d'accord, je te suis. Ben, il est devenu patron, il a monté sa boîte, il avait plus de 5 salariés à son compte et ça marchait bien pour lui. Moi, je le soutenais parce que c'est vrai que Jean-Paul a eu son passé. Comme les jeunes de cité, on va dire. Mais il avait énormément changé. Tout ça s'est arrêté quand il s'est mis avec moi et surtout quand j'ai eu son premier enfant, son fils. C'était plus le même Jean-Paul. Et ça, tout le monde l'a vu. Je vis avec la colère et la haine. Et je repense souvent à ce policier. J'ai une haine envers lui, mais... Parce que je me dis que lui, il vit. Il est avec sa femme, il est avec ses enfants, s'il en a. D'après les dires, il a été sous contrôle judiciaire et interdiction d'exercer, interdiction d'Île-de-France. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais je trouve que c'est minime par rapport à la peine qu'on a. J'ai une colère en moi... qui ne sort pas. J'ai perdu ma joie de vivre. Heureusement que je suis entourée de mes amis, de certains membres de ma famille. Mais une fois que tout le monde est rentré chez eux, ben, le soir, je réfléchis, je me retrouve seule. Une femme a besoin de se reposer sur l'épaule de son mari, et là, j'ai pas cette épaule. Je l'ai plus. Elle est partie, en fait. Quand on s'est connus, il avait 24 ans, j'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai... 38 et ouais. Oui, j'ai tout perdu. Depuis le 26 mars où il est décédé, une partie de moi est partie avec Jean-Paul dans la tombe. Je dors très peu. J'ai fait une grosse dépression. Je vis avec le stress quotidiennement. J'ai une grosse perte de cheveux. Je ne mangeais pas. Donc là, même au niveau du travail, j'ai été... à mi-temps thérapeutique parce que je ne suivais plus le rythme. Parce que j'ai un travail assez intense, parce que je suis fonctionnaire, je travaille en cuisine centrale. Et c'est très intense. on a à peu près 2800 repas par jour, donc c'est très physique. Et je commence de 6h30 à 14h30. Dans la vie de tous les jours, financièrement parlant, c'est devenu très dur. Avant, il y avait, on va dire, entre guillemets, deux salaires qui rentraient. Là, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Entre la cantine, la garderie des enfants du mercredi, les rentrées scolaires, les anniversaires, Noël, la vie de tous les jours, c'est pas évident. J'ai dû me faire suivre par une aide sociale, parce que Jean-Paul avait une société. Ça nous a causé beaucoup de problèmes aussi avec ses salariés, à qui il devait les jours travailler. On a même eu droit à être poursuivi au prud'homme. Tout ça, on n'était pas préparé parce qu'on ne savait pas. Et sans compter l'URSA, les charges, tout. Et quand on ne sait pas comment s'y prendre avec tout ça, mais on craque en fait. Il y a toujours cette attente de procès, cette attente de justice qui me travaille. Je pourrais commencer à faire mon deuil aussi quand ce procès va passer. Et on m'a dit que ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc on n'a pas de date précise. Et je serais tellement déçue si je vois qu'à la fin, cette personne n'est pas condamnée. Je voulais devenir policière en plus. Je m'étais inscrite pour faire le concours et tout. Mais au fur et à mesure du temps, dans les cités, dans les banlieues, je vois le contrôle, les contrôles de police, comment ils s'agissent avec les jeunes et tout. Non. Ils ont une arrogance, ils ont une façon de faire. C'est comme s'il y a une provocation, en fait. Ça me déçoit. Et franchement, là, je ne veux même plus entendre parler de la police, en fait. La seule chose que je dis maintenant, c'est que je vis le jour. J'ai plus de projet. Le seul projet, c'est que ce procès passe et que j'essaye de reprendre goût à la vie et d'aller de l'avant.
Je m'appelle Toufik, j'ai 38 ans, né le 23 juin 1985. Ça fait 8 ans que je suis là à Grenoble. J'ai loué un appart tout seul, je vis tout seul. Mon métier, je suis un mécano, je suis un bosseur. Quand tu bosses, tu travailles, t'as des sous, tu vives bien. J'ai aucun problème avec la police. Le 15 juin 2023... j'ai fini mon boulot à 18h. Je rentre chez moi, j'ai fait ma douche, je fais ma prière, je sors normal. Après, quand je sors chez moi, j'ai réparé les scooters d'un collègue à moi. J'ai réparé son scooter. Après, je sors pour essayer le scooter. J'ai roulé une centaine de mètres. J'ai roulé 10-20 à l'heure. J'ai mon casque. J'ai mes gants, le scooter il est en règle, je suis en piste cyclable, je sais que c'était une faute, mais c'est la seule faute que j'ai. Je croise aucun vélo parce qu'il est 21h de soir, et là tout d'un coup, je me fais gazer, je comprends pas tout de suite qu'est-ce qui se passe. Je crois d'abord, je me fais agresser. Parce qu'il y a un coin de gitan. Alors, j'ai traversé ma route. Je continue. Et là, sur le scooter, j'entends ça. Shoot-le, shoot-le. Derrière moi, j'entends des balles. J'ai pas mal tout de suite. J'ai traversé ma route. Après 1,5 km, je sens qu'il y a quelque chose dans ma jambe. J'ai arrêté. J'ai vu le sang. Après, je tombe. J'ai appelé mes collègues pour aider. Quand elle vient, mes collègues, la police, déjà, elle vient devant mes collègues. Il a gazé mon collègue. Moi, je suis blessé par terre. Le premier, policier, quand elle vient, il a mis son pied sur mon torse. Lui, elle sortir un calibre sur ma tête. Après, elle vient la bague derrière. C'est la bague, il a appelé les pompiers. Quand elle vient, les pompiers, j'ai perdu la mémoire. J'ai resté 5 jours au coma. Quand j'ouvrais les yeux, j'ai vu le médecin devant moi. Il m'a dit, tu viens de loin, t'as de la chance. J'ai resté 23 jours hospitalisé depuis le mois de juillet. Je suis à l'hôpital, j'ai mes 2 opérations. Le premier, il y a 48 points et le deuxième, il y a 54 points. J'ai passé des jours durs. Il y a tous les jours les douleurs, tous les jours la morphine avec des cachetons bizarres. Moi, j'ai jamais mangé des cachetons comme ça. En plus, je suis paralysé. Après le jour de la sortie de l'hôpital, j'ai très mal. Je ne veux pas rentrer chez moi. Parce que normalement, à l'hôpital, ils m'ont envoyé direct en centre de rééducation. Je dis, moi, je ne sors pas. Trouve-moi un centre pour mon pied, pour la rééducation. Après, le médecin, elle vient, il m'a dit, je ne trouve pas une place. C'est-à-dire, il faut que tu rentres chez toi, après, démerde-toi. Moi, j'ai pas envie de sortir. Il a appelé la police nationale. Elle vient chez moi à l'hôpital. Il m'a ramassé mes affaires dans un sac poubelle. Toutes les ordonnances avec mes affaires, tout dans un sac poubelle. Il m'a posé devant la porte avec mes affaires. Après, il m'a dit au revoir, Toufik. Elle part, il m'a laissé comme un chien devant la porte. Quand je rentre chez moi, je trouve moi dans la merde parce que d'un coup, j'ai perdu mon travail. Mon travail, c'est en noir. Donc, il n'y a pas de sécurité sociale. J'ai pas de sous pour payer mon loyer. Je peux pas bouger comme avant. Heureusement, je trouvais mes collègues, les 2 copains à moi. Des fois, chacun, il m'a rempli mon frigo. L'autre, il a payé mon loyer, il a payé mois de juillet, il a payé mois d'août, mais jusqu'à quand? Je sais pas. Là, déjà, quand je vois mon pied, déjà, ça fait trop mal. 2 balles par derrière. Il a déchiré les gamants. Après, maintenant, je bouge pas mon pied. J'arrive pas. Après, j'ai passé sur les associations sociales. Il m'a donné 1 an de kiné. Après le kiné, on verra. Même sur le kiné, il m'a dit, peut-être tu restes toute ta vie comme ça. À mon âge, pour un jeune de 38 ans, pour que tu tires 2 balles pour rien, tu laisses toute sa vie handicapée, c'est pas bien. Des fois, je dégoûte, je sors, je posais dans un parc. Et après, le soir, je rentre chez moi.
Ça vous manque le travail ?
Ouais. Ça fait 7 ans que je suis dans le mécanique, plus que 7 ans. Depuis l'Algérie, je suis dans le mécanique. C'est mon métier préféré. Je travaille à Échirol, à Saint-Martin-d'Air. Je travaille à plusieurs garages. Tu marches normal, tu as une vie simple, tu travailles, tu gagnes du sous. D'un coup, tu trouves toi dans un fauteuil roulant. C'est pas facile, hein. Des fois, j'ai pensé suicide direct, je dis la vérité. Parce que pour que tu finis ta vie handicapée, c'est pour ça le psychiatre il m'a donné un décachetant, un décalmant, pour que je dors le soir. Je je dors une heure, deux heures après. Tout le temps, je réveille le soir. Je fais le cauchemar. Tout le temps, je fais le calibre devant mes yeux. Maintenant, je reste choqué toute ma vie. Regarde maintenant, je t'entends les pompiers, on dirait il arrive pour moi. En plus, le policier, il est encore au travail. J'ai croisé deux fois. Quand j'ai croisé, j'ai peur. On dirait qu'il est toujours derrière moi.
Il vous a reconnu?
Oui, oui. J'ai posé une plainte avec mon maître. Mais maintenant, j'attends le tribunal. Hein. Parce que c'est elle, elle trouve une solution pour ma vie. Heureusement, je suis encore vivant. Hein.
I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of,
c'était Refus d'obtempérer, un reportage de Rémi Dibos-Kidouat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Amalia, à Toufik, à Pierre Brunisseau, à Arié Halimi et à Emmanuel Decombard. L'État hors la loi, le livre d'Arié Halimi est publié aux éditions de La Découverte. Notre attachée de production, c'est Sandrine Chaperon et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
Far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs. The fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. And we will sleep by the ocean, our hearts will move with the tide. Wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know. Feels like we're in a dream, you know what I mean.